un primat de l'amour.
Par la sainte indifférence, on est attentif
à notre liberté et on veut se mettre au-delà de deux états affectifs. Alors, on se met dans la sainte indifférence. Tandis que dans l'abandon, on insiste sur le primat de l'amour. Oui. Question d'accent, mais qui est très importante. C'est une question d'accent. Vous mettez l'amour à l'égard de Dieu et l'amour à l'égard du prochain en premier lieu. Alors, la conséquence de l'abandon implique la sainte indifférence. C'est possible et c'est pas toujours. C'est très curieux. Je crois que c'est possible, c'est très possible que Dieu nous donne... Oui, enfin, avant j'étais attaché à cette chose-là, maintenant c'est complètement passé. Mais ce n'est pas nécessaire absolument, parce que c'est la conséquence psychologique. Or, la grâce ne se traduit pas tout de suite dans une conséquence psychologique. La grâce peut nous donner cette conséquence psychologique comme elle peut très bien ne pas nous la donner. Alors, c'est pour ça que les deux, vous voyez, c'est intéressant. Il faudrait creuser ça une fois. Enfin, je vois uniquement ici, comme ça, par rapport à la liberté, par rapport à Descartes, parce que c'est quand même intéressant de voir ça. C'est très intéressant de voir ce grand tournant qui s'est fait à ce moment-là d'un primat de la liberté. Et ce primat de la liberté nous a conduit à notre philosophie d'aujourd'hui. Je crois. Qu'est-ce qu'il y a ?
Il y a des options pastorales.
Oui, il y a des options pastorales. Les options pastorales ne sont pas de la théologie. Oui, exactement comme l'apologétique. Il y a des options, c'est pour ça que je dis, quand je dis apologétique, je voulais dire option pastorale, vous voyez. Insister davantage là-dessus, ça je comprends très bien. Je comprends très bien l'option pastorale. Mais ce qui est dangereux, c'est que c'est devenu une théologie. Oui, et c'est le même danger qu'on voit aujourd'hui. On fait de l'apologétique, on fait de l'œcuménisme la théologie. Attention, la théologie est contemplative. L'option pastorale n'est pas contemplative. Vous voyez, immédiatement, c'est une option pastorale qu'on fait par la miséricorde et la charité fraternelle. Tandis qu'au contraire, la théologie doit être contemplative. Alors le moment où il y a l'option pastorale ou l'option apologétique devient théologique, je crains beaucoup qu'à ce moment-là, ce soit le tournant de l'anthropologie qui passe avant la métaphysique. Oui, ça me semble important de voir ces choses-là, parce que ça explique comment, progressivement, avec un motif excellent, on peut arriver à faire que le point de vue profond ne soit plus ce qu'il doit être. Alors, je continue de répondre à ces quelques questions, puisque tout à l'heure, on continuera peut-être si on a le temps, n'est-ce pas ? Pourriez-vous expliquer, dites-moi hein, s'il y a des choses qui vous choquent dans ce que je veux dire, parce que moi je l'ai dit, j'essaie de les traduire théologiquement le mieux possible, mais c'est très vrai que c'est, de temps en temps, il faut bien voir l'équilibre entre les deux. Pourriez-vous expliquer ce qu'est un acte irréversible positif, par exemple l'acte de profession ? Oui. Alors, on comprend un acte irréversible positif, hein, au fond tout engagement, quand il s'agit d'un engagement en face de Dieu. C'est un acte irréversible. Je m'engage en face de Dieu pour toute ma vie. C'est quelque chose qui implique un don total de tout nous-mêmes. Alors, là, il y a une dimension théologale qui intervient, qui par la foi, nous touchons l'éternité. Et c'est grâce à la foi que nous pouvons comprendre cela. Alors, nous pouvons comprendre que cette décision que nous prenons, parce que c'est une décision, donc c'est un choix et une intention de vie. Tout ça qui est impliqué dans l'acte de profession. Nous nous consacrons à Dieu, acte de consécration. Donc c'est toute notre vie qui est remise entre les mains du Père. Toute notre vie qui est remise entre les mains de Jésus, qui est remise dans son cœur. Alors, cet acte de toute notre vie qui est remise entre les mains de Dieu, c'est pour aimer plus. Et nous faisons que cet acte soit un acte solennel, c'est-à-dire sur lequel nous ne reviendrons pas. Et nous sommes conscients de faire cet acte-là. Alors, psychologiquement, vous voyez bien, je vois les niveaux. Psychologiquement, ça fait partie de ces choses que les psychologues ont une peine énorme d'encaisser. Pourquoi ? Parce qu'ils disent que notre conditionnement va changer. Donc nous faisons un acte de profession à 25 ans ou à 30 ans. Quand nous aurons 45 ans, notre conditionnement sera complètement changé. Et les conditions de vie pourront être changées. Et donc vous ne pouvez pas vous engager d'avance. Donc c'est un acte absolument inhumain que de faire ça. Ce n'est pas raisonnable. Mais ils diront ça même pour l'amour profond d'amitié. Hein. Parce que dans l'amour profond d'amitié, quand quelqu'un choisit, un jeune homme choisit une épouse, choisit son épouse, et que l'épouse accepte ce choix, cet acte est un acte d'amour, un acte de choix qui est irréversible. L'amour demande d'être quelque chose d'absolu, donc qui est irréversible. N'allez pas dire à quelqu'un, hein, je te choisis et je t'aime tant que je t'aime. L'amour peut atteindre la personne dans son absolu. Si l'amour n'atteignait que les qualités et les beaux yeux, il ne serait pas absolu. Parce que les beaux yeux peuvent changer. Les qualités peuvent changer, elles sont relatives. Mais puisque le bien, c'est la personne, il y a quelque chose d'absolu. Alors, l'amour humain, l'amour d'amitié, au sens fort, implique quelque chose qui est au-delà du temps, donc irréversible. A fortiori, quand il s'agit de Dieu. C'est Dieu que nous choisissons. Et à travers Dieu, nous choisissons tel genre de vie. Alors, à ce moment-là, c'est tel genre de vie que nous choisissons à l'intérieur même du mystère de Dieu. Dans le mystère de Dieu, nous choisissons tel genre de vie pour aimer plus Dieu. Et donc, à ce moment-là, puisque la foi nous fait toucher le mystère de Dieu et nous fait toucher la volonté de Dieu sur nous, cette profession que nous faisons, cet acte que nous faisons de consécration à Dieu, a quelque chose d'éternel. Et nous devenons les témoins de l'éternité dans le temps. C'est ça que fait notre profession. Il fait des témoins d'éternité dans le temps. Déjà l'amour humain, vous voyez, je ne dis pas touche l'éternité, mais touche l'absolu. C'est là la différence. Mais l'amour humain a quelque chose d'irréversible. Un véritable amour humain qui a touché la personne. Évidemment, si on aime quelqu'un uniquement d'une façon extérieure, alors cet amour n'est pas irréversible. C'est justement, c'est ça l'amour libre. L'amour libre, c'est parce qu'on reste au niveau des qualités et qu'on n'a pas atteint la personne. Je crois que ça fait partie de tout un ensemble au point de vue psychologique et au point de vue humain où on a une peine énorme de comprendre que l'amour regarde le bien personnel. C'est pour ça que j'ai tellement insisté sur le bien personnel. C'est la personne que nous aimons. Donc voyez comment l'acte de profession qui se fait dans la lumière de la foi et dans la lumière de l'amour, nous met au-delà du temps. C'est quelque chose d'éternel qui assume le temps. C'est le mystère de notre foi. Nous sommes liés à la volonté éternelle de Dieu sur nous. Et c'est cette volonté éternelle de Dieu sur nous qui nous prend et qui nous saisit. Et qui fait qu'à ce moment-là, nous faisons un acte de coopération avec le Christ. Je dirais tous nos actes de vie chrétienne sont cela. Alors celui-là prend un caractère particulier parce qu'il y a une orientation de vie, un changement de vie et que nous disons que nous voulons que ce soit pour toute notre vie. Parce que nous avons jugé en face de Dieu que c'était la meilleure façon de répondre à l'amour du Christ. La façon la plus adéquate. Et l'Église est là pour confirmer. Il ne faut pas l'oublier. Parce que vous pourriez dire, ah mais dans 10 ans, je trouverai quelque chose qui soit plus adéquat de répondre à l'amour de Dieu. Alors dans 10 ans, je trouverai quelque chose de plus adéquat. Et donc je choisirai ce quelque chose de plus adéquat. Alors je devrais dire dans ma profession religieuse, je m'engage pour le temps où, pour moi, c'est le moyen le plus adéquat de répondre à l'amour de Dieu. Oui, ce genre de profession. Vous voyez tout de suite, hein, j'espère, l'erreur qu'il y en a. C'est que vous mettez la connaissance avant l'amour. Je ne fais pas profession en fonction de la connaissance que j'ai. Heureusement. que dans 10 ans, j'espère connaître un peu mieux. Je fais progression en fonction de vous. Mais si quelqu'un s'engage avec quelqu'un d'autre dans l'amour d'amitié, en disant je t'aime dans la mesure où je te connais, et dans la mesure où je te connais de telle manière, en fonction de tes qualités, ces qualités peuvent changer. Et donc à ce moment-là, le lien disparaîtra. Si au contraire on choisit l'autre parce que c'est l'autre, et parce que c'est notre bien, il y a l'absolu de la personne. Vous voyez, c'est pour ça que ça touche hein, tout ce que nous avions dit comme application. C'est une simple application de cela. C'est que l'amour regarde le bien personnel. Et quand il s'agit du Christ, c'est par la foi et dans le point de vue de l'agapé que je touche le mystère du Christ, que j'atteins le mystère du Christ. Et c'est en m'attachant au mystère du Christ que je veux le suivre de la manière la plus adéquate. Qu'est-ce cet acte libre positif qui, pour un incroyant, oriente toute sa vie? Alors, pour un incroyant, oriente toute la vie du croyant, pas du croyant. L'incroyant ne peut pas faire cet acte-là, comme un croyant. L'incroyant peut uniquement aimer d'un amour humain. Mais je crois qu'un incroyant qui a gardé une intelligence et un cœur pur, peut comprendre un engagement humain. Un engagement humain dans le sens le plus fort. Ça peut se faire aussi que si cet incroyant est positiviste, et dans la mesure où il est positiviste ou matérialiste, il ne comprend plus l'absolu de la personne humaine. Alors à ce moment-là, c'est la solidarité. La solidarité entre les travailleurs. Et si on regarde dans le marxisme, ou bien si on regarde d'un point de vue positif, on aime quelqu'un en fonction de ses qualités. Et en fonction de la connaissance qu'on a de lui. Ça qui est terrible dans cette chose-là, c'est que le positivisme tue l'amour. Parce qu'on aime en fonction de la connaissance qu'on a. Et c'est la connaissance qu'on a qui règle tout. Alors, à ce moment-là, pour un incroyant, qu'il soit positiviste, qu'il soit matérialiste, hein, je prends les deux cas, c'est encore un autre incroyant, soit un incroyant qui au fond est incroyant mais il ne sait pas très bien pourquoi. Ça peut arriver. Il y a des incroyants comme ça et qui ont gardé un cœur pur. Vous voyez, donc, prenons les trois cas si vous voulez. L'incroyant qui a gardé un cœur pur peut comprendre qu'il y a dans l'amour humain une possibilité d'un engagement qui est au-delà du temps. Alors à ce moment-là, l'analogie est facile à faire en comprenant que c'est le Christ à qui on se donne. Un incroyant qui est positiviste ou qui est matérialiste. Alors, ça devient beaucoup plus difficile. Je crois qu'il faut accepter qu'il ne peut pas comprendre. Parce qu'on s'engage vis-à-vis d'une personne divine qui ne l'accepte pas. Je devais prêcher, il n'y a pas très longtemps, enfin, c'était à Châteauneuf à la fin de la retraite. On m'avait prévenu, c'était un engagement qui se faisait à la fin de la retraite, et celle qui s'engageait m'avait dit, il y aura mon oncle qui est là, mon oncle est pur marxiste, il est assistant à la Sorbonne, s'il n'est pas professeur avec une chaire titulaire, c'est parce qu'il est trop marxiste, il écrit énormément dans l'humanité, et il est un marxiste engagé. Bon, il était là en premier lieu, il fallait que je prêche pour l'engagement. Heureusement qu'elle m'avait averti, il valait mieux du reste, des gens qui m'avertissent, c'était parce qu'on ne va pas parler exactement de la même manière, tout en disant la vérité, on ne va pas parler exactement de la même manière, c'est parti de l'engagement pastoral, oui, on ne va pas parler exactement de la même manière si on est en face d'un marxiste notoire qui est là. C'était déjà bien d'accepter de venir hein, pour lui. Il était entouré du reste de ses enfants qui sont marxistes aussi. Donc il n'était pas seul. D'un petit milieu. C'est évident qu'on va parler de l'engagement religieux autrement, parce qu'on va essayer de faire comprendre ce que ça représente comme grandeur d'un acte qu'on peut faire, qui engage toute notre vie. essaiera de faire comprendre que ce n'est pas quelque chose qui diminue la personne humaine. C'est ça, je crois, qu'il faut le montrer. C'est quelque chose qui ne diminue pas la personne humaine. Parce que ça exige un engagement qui réclame d'aller toujours plus loin. Et donc d'un don actuel du cœur. Et que ce don se fasse selon l'esprit évangélique de la pauvreté, de l'obéissance. Il faut bien. Et la chasteté, la virginité. Il faut montrer les trois. Alors vous voyez, vous partez de ce que représente la dignité de l'homme et la grandeur de l'homme. Et que ce n'est pas contraire à la dignité de l'homme. Je crois que c'est la seule chose qu'on peut faire comprendre à un incroyable. Il a du reste très bien suivi. J'avais de temps en temps l'œil sur lui, c'est sûr. J'avais vite remarqué qui il était, et j'essayais de me moduler en fonction un peu de lui, sans, tout en prêchant à celle qui faisait son engagement, c'est bien évident. Mais comme je savais qu'elle le portait énormément dans son cœur, n'est-ce pas, je sentais très bien les vibrations qu'il y avait des deux qui étaient là. Je crois que c'est très important pour nous d'essayer de faire comprendre à ceux qui nous aiment et qui sont engagés dans une perspective tout à fait différente, de faire comprendre. Alors, quand il s'agit d'un marxiste engagé, peut comprendre un engagement. Un positiviste non engagé comprend beaucoup plus difficilement. Tandis qu'un marxiste engagé peut comprendre qu'il y a quelque chose de grand d'engager toute sa vie dans un don qui n'est pas une œuvre terrestre, qui est quelque chose de plus et qui exige une foi. Oui. Donc, je crois que cet acte libre, positif de l'engagement, si vous voulez, de l'acte de profession, pour un incroyant, on devra essayer de lui faire comprendre que dans le cœur de l'homme, il y a quelque chose qui toujours est un appel vers quelque chose d'infini. Ça, ils peuvent comprendre. Il y a quelque chose d'infini. Il y a un appel. Et à partir de cet appel, comprendre ce que représente cet engagement. On ne peut pas aller beaucoup plus loin. On peut affirmer que pour le croyant, c'est sûr, pour le croyant, il y a quelque chose qui va plus loin, parce que ce n'est pas seulement cet appel vers l'infini, mais c'est le lien avec le Christ. Le lien avec le Christ qui est notre Sauveur et qui vient vers nous. Alors là, nous pouvons comprendre cela. Mais comme pour lui, le Christ, ça ne signifie rien. C'est un idéal. Et ça ne peut pas signifier plus que cela. C'est un idéal. Un idéal qui a existé dans le temps, qui a peut-être, au mieux, qui a existé dans le temps, mais cet idéal, aujourd'hui, demande d'être vécu autrement. Le christianisme a préparé le marxisme, vous savez bien ce qui est dit au musée de Moscou, n'est-ce pas ? Le christianisme était nécessaire pour que le marxisme puisse apparaître. Et si le christianisme n'était pas présent, le marxisme n'aurait pu jamais apparaître. Et donc, ils considèrent qu'il y a comme une continuité entre les deux. Mais pour eux, le christianisme a existé à un moment donné, et aujourd'hui, il faut justement cette ampleur. Je n'insiste pas plus. Pouvez-vous expliquer ce que sont les actes posés dans l'invisible, actes intérieurs ou extérieurs, qui peuvent avoir une répercussion sur le plan mystique pour le monde? Sur le plan mystique ou pour le monde? Oui. Alors, ces actes intérieurs, c'est l'acte d'amour qui nous lie au Christ. Alors, cet acte d'amour qui nous lie au Christ est un acte divin. Au-delà de l'intentionnalité, c'est propre de la vie divine. La vie divine n'est plus au niveau de l'intentionnalité. C'est notre vie humaine qui est au niveau de l'intentionnalité. La vie divine est au-delà de l'intentionnalité, c'est pour ça que c'est une union substantielle avec le Christ, mais qui garde un mode intentionnel, parce que nous ne sommes pas encore dans la vision béatifique, nous ne sommes pas encore au terme, et que la grâce ne supprime pas le conditionnement de la nature. C'est pour ça que la foi a quelque chose d'absolu, qui nous fait adhérer à la vérité divine. L'amour divin, l'agapé, a quelque chose d'absolu qui nous fait adhérer à la bonté du Christ, à l'amour du Christ, au cœur de Jésus, substantiellement, n'oubliez pas, il faut bien comprendre que la grâce a quelque chose de substantiel. Mais nos actes de foi, d'espérance et de charité ont quelque chose de substantiel, tout en ayant un mode intentionnel. C'est difficile à comprendre, ça. Ça, je suis tout à fait d'accord que c'est très difficile à comprendre. Et du reste, très difficile à expliquer. Mais c'est très important. C'est très important de comprendre que notre vie divine n'est pas seulement intentionnelle. Parce que quand on regarde la vie divine uniquement du point de vue de l'intentionnalité, on oublie le caractère propre de la grâce qui nous fait vivre notre vie divine. Notre vie divine est une vie divine. Et l'intentionnalité ne pénètre pas dans la vie divine. Nous sommes enfants de Dieu et nous le sommes vraiment. Vous voyez, c'est pour ça que Saint Jean insiste. Nous sommes enfants de Dieu et nous le sommes vraiment. Et donc, nous vivons un enfant de Dieu. Il y a donc quelque chose dans la vie de la grâce qui s'épanouit en nous, qui dépasse complètement le mode intentionnel de l'intelligence et de l'amour, et qui nous met dans un lien substantiel avec le Christ, de vie divine, et donc au-delà de l'intentionnalité. Mais l'intentionnalité existe encore, parce que nous ne sommes pas dans la vision béatifique. Alors il y a encore l'intentionnalité qui permet le progrès, qui permet de croître dans l'amour, qui permet de croître dans la foi. Alors là, c'est tout un aspect très important de cette vie intérieure. Pourriez-vous expliquer ce que sont les actes posés dans l'invisible de la foi, mais dans le réalisme de la foi, et réalisme substantiel. Nous touchons le cœur de Jésus. Nous demeurons en lui, et lui demeure en nous. Et donc nous coopérons avec lui, et nous faisons ses actes en union avec lui. C'est lui qui continue d'agir à travers nous. Et c'est pour ça que ces actes ont une efficacité divine que nous ne pouvons pas mesurer. Et l'offrande de notre vie, par exemple, prenez l'acte de consécration de la petite Thérèse, l'offrande de sa vie à l'amour miséricordieux, mais c'est sûrement un acte dont nous ne pouvons absolument pas mesurer l'étendue, selon le bon plaisir de Dieu et selon l'intensité de notre amour. L'offrande de notre vie, au fond, l'acte de petite Thérèse, c'est tout simplement notre confession, c'est notre consécration, si vous comprenez bien. En vous consacrant à Dieu, en vous consacrant au Christ, vous vous consacrez au cœur blessé de l'agneau, et vous vous consacrez à son amour miséricordieux. Et donc, chaque fois que nous renouvelons notre profession, notre consécration, et nous renouvelons notre consécration, chaque fois que nous adorons, parce que nous offrons toute notre vie, et nous l'offrons en même temps que le Christ. Il y a cet acte intérieur qui implique, comprenez bien, qui implique la volonté d'amour et la volonté d'efficacité. Les deux sont liés, intimement liés, mais c'est un acte intérieur, c'est une efficacité intérieure. Nous voulons obéir à l'Esprit Saint en nous consacrant totalement à Dieu. Donc cet acte intérieur qui fait que nous nous donnons totalement à Dieu a une efficacité qui dépasse toute l'efficacité de tous les autres actes. Une efficacité infiniment plus grande et beaucoup plus universelle. Et c'est ça que fait comprendre la vie contemplative. La consécration de tout notre être à Dieu a une répercussion infiniment plus grande que tous les actes que nous pourrions faire. Alors, c'est la question de la vocation. Dieu nous demande d'être totalement consacré à l'invisible. Et Dieu nous demande rare que cette consécration dépasse tout ce que nous pourrions faire d'actes positifs de miséricorde, d'actes positifs de charité. Charité fraternelle. Pouvez-vous approfondir la question de la liberté et du déterminisme? Alors là, c'est énorme, là aussi. La détermination et la question de la liberté. Alors, c'est ici que j'aurais dû reprendre Descartes. Mais vous voyez bien que pour nous, tout acte de liberté se réalise dans l'amour. Nous sommes libres. Pourquoi sommes-nous libres, hein? C'est intéressant de voir pourquoi sommes-nous libres. Nous sommes libres parce que l'union affective n'est pas adéquate à l'union réelle. Toujours ce hiatus qui nous fait comprendre pourquoi il y a la liberté et que nous devons tendre vers cette union réelle. Et c'est la même chose au niveau de la vie divine. Au niveau de la vie divine, l'amour avec le Christ est substantiel, mais le mode est intentionnel. Et c'est pour ça que la liberté demeure. S'il n'y avait aucune intentionnalité, il n'y aurait plus de liberté. On serait au-delà. Dans la vision béatifique, on sera au-delà. Et c'est pour ça que dans la vision béatifique, on dira la liberté est dépassée. Il n'y a plus que l'amour. Vous voyez ? C'est pour ça que l'amour peut dépasser la liberté, puisque la liberté vient de l'amour. Et elle est un fruit d'amour, mais l'amour est plus que la liberté. Si je suis libre, c'est pour aimer plus. Bon, faut bien comprendre toujours ça. Faut faire grande attention à la position de Descartes, hein, parce qu'on la respire, et on la respire en soi. Alors il faut bien comprendre que la liberté provient de l'amour, et elle est pour l'amour. Alors, tant qu'il y a en nous une distance, comprenez bien, une distance spirituelle, une distance intérieure, entre ce que nous sommes et le Christ qui nous attire, et le Père qui nous attire, tant que nous ne sommes pas arrivés à la plénitude de l'amour, il y a une liberté. Il y a une liberté, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités de choix, il y a des possibilités de se laisser de plus en plus prendre par l'attraction du Père. Et donc, la liberté existe à partir de l'amour et pour l'amour. La liberté de choix existe à partir de l'amour et pour l'amour, toujours la liberté. Tandis que le déterminisme, c'est pas la même chose, hein. Le déterminisme, là où il y a l'esprit, il n'y a pas de déterminisme. Le déterminisme est au niveau de la matière. Il n'y a pas de liberté au niveau de la matière. Il y a au contraire le déterminisme. Il n'y a pas de liberté au niveau des instincts. Il y a au contraire le déterminisme. Mais ce déterminisme n'est pas absolu parce que la matière implique une potentialité. Alors il peut toujours y avoir des ratés. Donc il n'y a pas un déterminisme absolu. Le déterminisme absolu, c'est maintenant de plus en plus, on reconnaît que c'est faux. Il n'y a pas de déterminisme absolu. Donc le déterminisme vient de la détermination de la forme qui détermine la matière, qui actue la matière. Et donc il y a un déterminisme dans notre univers physique. Autrement, il n'y aurait pas de loi. S'il n'y a aucun déterminisme, il n'y aura aucune loi. Mais il y a une frange d'indétermination. Le déterminisme, c'est la conquête de la forme sur la matière. Hein, c'est ça qu'on pourrait dire, hein, si on prend la conquête de la nature-forme sur la nature-matière. C'est ça le déterminisme. C'est un ordre déterminé que nous essayons de détecter. Et alors nous saisissons là que si nous posons telle autre chose viendra. C'est pour ça qu'il y a un déterminisme au niveau psychologique. Au niveau psychologique, il y a un déterminisme, il y a des lois psychologiques. Et au niveau psychologique, vous pouvez très bien dire en posant telle chose là, il y aura telle réaction. Mais au niveau de l'esprit, il n'y a plus de déterminisme. Parce que vous êtes en face de la finalité. Et la finalité, c'est un dépassement du déterminisme. Et vous tendez librement vers cet amour, vers ce bien. Et tendre librement vers ce bien nous montre bien l'au-delà du déterminisme. Dès qu'on découvre ce que c'est que l'esprit, on ne peut plus être dans un déterminisme absolu. Dès qu'on découvre ce que c'est que l'esprit. Dès qu'on découvre ce que c'est que l'esprit, on découvre ce que c'est que la finalité. Et dès qu'on découvre ce que c'est que la finalité, on comprend la liberté. Oui. Alors, il faut bien saisir ces zones différentes. Hein. Au niveau du monde physique, vous avez un certain déterminisme. Je dis un certain déterminisme. Parce qu'il y a une frange d'indétermination, de potentialité. Il y a des choses qui peuvent rater. Mais si profondément qu'on aura réfléchi, hein, il y a des choses qui peuvent rater. Vous voyez, par exemple, dans les œuvres techniques qu'on peut réaliser, qu'on réalise à partir de la matière, on pourra faire une grande attention, je sais pas, sur les métaux qu'on a employés, et voir les variations qu'il peut y avoir. Il pourra toujours y avoir une faille. tout. Je parle des barrages, tu vois, les barrages qui tout d'un coup peuvent craquer. Ça peut arriver, ça, c'est évident. Les barrages qui ça s'usent, même si on fait grande attention et qu'on les surveille le plus possible. Il pourra toujours y avoir une faille. Qui fait que alors on dira, mais on aurait dû l'avoir prévoir. Non. Ça, c'est les limites de l'intelligence humaine. La limite de l'intelligence humaine, c'est l'opacité de la matière. C'est-à-dire l'indétermination de la matière. Il y aura toujours une indétermination dans la matière qui existera toujours. Qui fait qu'il y aura toujours une possibilité d'une faille. C'est la même chose du côté de notre déterminisme psychologique, vous savez. L'homme n'arrivera jamais à détecter d'une façon absolue ce que représente la zone. Il y aura toujours des réactions volcaniques, on ne saura pas pourquoi. Un volcan s'était complètement éteint, et puis tout d'un coup il se réveille. Comment se fait-il ? Depuis qu'il a 25 ans, jusqu'à 45 ans, tout s'était passé normalement. Puis tout d'un coup, à 45 ans, le volcan commence à... Si on est très attentif, on voit d'abord la fumée, tu vois. Alors, on a le temps de s'écarter un tout petit peu. Mais si on n'est pas très attentif, on reçoit les larmes. Tout de suite, tu vois, et en pleine tête. Et on n'avait pas prévu ça. Il y a toujours un terrain volcanique. Vous ne pourrez jamais épuiser les lois psychologiques. Il y aura toujours quelque chose qui restera dans la déterminée. C'est très curieux. Donc, il n'y a pas de déterminisme absolu. Dès que vous entrez dans le domaine de l'esprit, alors là, vous avez la finalité et la liberté. Vous voyez ? Et finalité et liberté vont ensemble. Finalité et liberté vont ensemble. Pouvez-vous expliquer que notre volonté n'est pas indéterminée face au bien et au mal ? Je retrouve le point de vue de l'indétermination. Mais qu'elle est naturellement orientée vers le bien. Je ne peux pas l'expliquer, mais je peux simplement essayer de faire comprendre ce que représente cette orientation fondamentale de l'appétit spirituel qu'on appelle volonté vers le bien. Je le pose, hein, c'est une conclusion, je pose ça. C'est au terme de toute l'enquête sur ce que représente la volonté que je dis il y a en nous une dynamis. Une puissance radicale qui m'oriente vers le bien. Et la première chose qui me permet de dire ça, c'est que je suis instinctivement incliné vers le bien. Le bien, c'est ce que tous désirent. C'est ça que je vois. Alors, je choisis librement, j'exécute tous mes actes humains, vous voyez ? Si on voulait maintenant le faire d'une façon inductive, c'est-à-dire d'une façon proprement philosophique, vous voyez, je ferais de cette manière-là. J'étais parti de cette analyse en vous disant, je pars de l'analyse de saint Thomas. Mais maintenant, si je veux faire d'une façon inductive, parce qu'au fond, c'est ça qu'on me demande, qu'est-ce que je ferais ? Je verrais que dans ma vie, il y a des actes d'exécution. J'exécute certaines choses. C'est vrai. Tous les jours, je me réveille le matin, j'exécute. Même si je suis de mauvaise humeur, j'exécute. J'avais décidé la veille de me lever, je me lève. Donc, j'ai l'exécution. Entre deux, je ne sais pas, il y a eu un orage, j'ai changé l'atmosphère, vous savez, j'exécute. Bon, tous les jours, je choisis. C'est évident, je choisis tous les jours. Tous les jours, je réfléchis sur les moyens, au moins à un certain moment. Je ne dis pas tous les jours, absolument. Heureusement, il y a des jours où je ne réfléchis pas sur les moyens. Enfin, j'en fais l'économie. Tous les jours, je me renouvelle dans mon intention. Tous les jours, je désire aimer plus. Tous ces actes-là, je les fais tous les jours. J'en ai l'expérience palpable, au plan surnaturel, au plan divin. J'essaie d'aimer plus le Christ. Et pour l'aimer plus, je l'adore. Et j'adore avec lui le Père. J'essaie de polariser toute ma vie vers lui et que toutes mes intentions soient vers lui. J'essaie de choisir comme il choisit pour faire œuvre commune. J'essaie d'exécuter pour montrer que je l'aime et que mon amour se concrétise. Donc, tous les jours, je suis en phase de ces actes-là que je fais régulièrement, qui sont la trame de ma vie. Si je réfléchis à travers tous ces actes, il y a donc en moi, radicalement, quelque chose qui me porte vers le Christ. Au point de vue chrétien, l'agapé. Cet amour. Cette participation profonde au souffle de l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui en moi agit. Et je réponds à son action. L'agapé. Au point de vue de la foi, je peux le dire. Il y a en moi cet amour nouveau et cet agapé, il est au-delà de la distinction philia eros, il contient les deux. Et c'est vrai, il est au-delà de cette distinction. Il est dans la ligne de la philia plus, mais il me donne aussi un amour intense, festif, véhément vers le Christ. Je suis saisi par lui. Cet agapé, où est-ce qu'il se trouve? En quoi s'enracine-t-elle? Elle s'enracine dans ce que j'appelle la volonté. La volonté est le soubassement humain de l'agapé. C'est cette volonté. Cette volonté transformée, surnaturalisée par l'agapé. Elle est vraiment surnaturalisée par l'agapé. Cette volonté, qu'est-ce qu'elle est? Ah, radicalement cette volonté, et donc cet appétit, cette tendance, vers le bien spirituel. Oui, j'ai repris le mouvement inverse. C'est cet appétit, c'est cet appétit spirituel qui me fait tendre vers le bien et qui est transformé par l'agapé, transformé par la charité pour me permettre de coopérer à l'amour à l'égard du Christ. Chaque fois que je fais un acte surnaturel d'amour, ma volonté est présente. C'est bien évident. Je veux aimer le Christ. Je sais très bien que quand je dis je veux aimer le Christ, l'Esprit Saint est là qui m'a poussé. Et c'est grâce à lui que je peux le dire. Mais l'Esprit Saint ne remplace pas, ne supplée pas ma petite volonté. Et il veut que je coopère. Et plus l'Esprit Saint soufflera, plus il souffrera gratuitement, plus il voudra que je coopère. Et donc, cette coopération radicale implique cette puissance qui est orientée vers le bien, cette inclination vers le bien. Quelque chose que je ne saisis pas directement, vous voyez, je l'infère, hein, je la pose, inférer dans le sens je la pose, quelque chose d'ultime. Qu'est-ce que je saisis? C'est les actes. Mais cette dunamis, cette puissance radicale vers le bien, cette inclination, je la saisis à l'intérieur de mes actes, mais je ne la saisis pas directement. De sorte que pouvez-vous expliquer ce qu'est notre volonté? Pouvez-vous expliquer que notre volonté n'est pas indéterminée face au bien ou au mal? Bon, je l'explique en fonction de tous ces actes, qu'il y a en moi cette inclination vers le point de vue du bien. Vers le bien en tant qu'il est connu, et que le bien m'attire. Que le bien est capable de faire cette attraction en moi, tandis que le mal n'attire pas. Et donc je ne peux pas dire qu'il y a en moi une faculté indéterminée vers le bien et le mal. À ce moment-là, on identifierait la volonté et la liberté. Or, justement, il n'y a pas identité entre les deux. Ce qu'il y a de plus radical, c'est l'amour, qui est le fruit premier de cet appétit vers le bien, et qui correspond à cette attraction du bien sur moi. Et que, en vue d'être uni à ce bien, alors à ce moment-là, je choisis tous les actes que je peux poser. Vous voyez comment on peut l'expliquer, hein? Ça reste au plan philosophique une inférence très très importante, capitale, et que je ne saisis pas directement, comme toujours la puissance. Toutes les puissances, toutes les dynamèles qui sont en moi, toutes les puissances qui sont en moi, je les pose à partir de mes actes. Je n'ai pas une saisie directe de ma volonté. C'est vrai, ce qui explique comment on peut se tromper, comment très bien on peut la télescoper et ne plus le comprendre du tout, à la manière de Descartes. Ne plus comprendre du tout qu'il y a en moi une volonté, un appétit spirituel. Et ne plus regarder la volonté que dans ses conséquences ultimes d'efficacité. Oui. Donc je la pose comme quelque chose qui est impliqué dans tous mes actes volontaires. Tous mes actes volontaires montrent cette tendance, cette orientation profonde vers le bien. Bon, je m'arrête et nous reprendrons tout à l'heure dans